I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour parler d'une année de ciné en particulier avec un invité. Il est journaliste cinéma et série, notamment pour les magazines Télécablesat et Cinéma Teaser. Vous pouvez également le retrouver dans l'émission Le Cercle Série, diffusée sur Canal+. Et il est le spécialiste français de Harrison Ford, c'est Thomas Détouche. Salut Thomas.
Salut Thibaut, je ne suis pas le spécialiste français, je suis l'amoureux. L'amoureux numéro 1 d'Harrison Ford.
Voilà, exactement. Comment ça va?
Ça va très bien.
Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Avec grand plaisir.
Alors, sans trop en révéler, pourquoi as-tu choisi l'année dont on va parler aujourd'hui?
Ben, quand on prépare l'émission, tu nous donnes le choix de choisir des années. Alors moi, mon premier réflexe a été de dire un bon film d'Harrison Ford. Donc, tu m'as dit les années qui avaient déjà été traitées, etc. Puis je suis tombé sur 90, parce que c'est Présumé innocent, qui est pour moi un des très grands rôles un peu moins connu d'Harrison Ford. On en reparlera plus tard. D'accord. Et 90, c'est aussi la mort de Greta Garbo, qui est pour moi la plus grande star, la plus grande actrice de tous les temps. Ah, oui. Et j'aime tellement cette actrice que j'ai prénommé ma première fille Greta.
Quoi, c'était un choix qui avait effectivement plein de sens. Le début d'une nouvelle décennie, donc la fin d'un siècle qui approche au loin. On vous propose donc aujourd'hui une petite balade pleine de nostalgie dans une année de cinéma qui vous dira forcément quelque chose. Au programme, Kevin Costner qui danse avec des loups, le jour où Gérard Depardieu a failli percer à Hollywood, et cette grosse question, derrière Han Solo et Indiana Jones, qui est vraiment Harrison Ford? L'année 1990, c'est parti. On écoutait ça en 1990, Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. Et 90, c'est également l'arrivée de la série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost, celle du lancement du télescope Hubble, du début de la guerre du Golfe, de la réunification de l'Allemagne après 41 ans de séparation, ou encore de la sortie de la Super Nintendo et des jeux ô combien cultes comme Super Mario World et F-Zero. Mais 1990, c'est aussi et surtout du cinéma. Et dans les salles cette année-là, on pouvait aller voir pêle-mêle Édouard aux mains d'argent, Maman j'ai raté l'avion, À la poursuite d'Octobre rouge, Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, Ripou contre Ripou de Claude Zidi, Les affranchis de Martin Scorsese ou encore les formidables La gloire de mon père et Le château de ma mère d'Yves Robert. Et cette année-là, aux États-Unis d'Amérique, un acteur décide de réaliser son premier film et de ressusciter un genre tombé en désuétude, remuant au passage toute l'histoire du cinéma américain. Bref, on est parti pour notre premier thème. On s'y voit déjà, le vent dans les cheveux, une sur notre monture.
Exactement, les prairies à galoper dans les prairies.
Voilà, de la perte de vue, etc. Sur cette musique de John Barry, de John Dunbar Thème, musique de la bande originale de Danse avec les loups, sortie donc en 1990, le 9 novembre pour être précis. Film de Kevin Costner et avec Kevin Costner, et aussi avec Graham Greene, Mary McDonnell et Rodney Grant. Film qui raconte très brièvement comment en 1863 le lieutenant John Dunbar, qui est un soldat de la guerre de sécession,
qui est un héros
de la guerre de sécession,
en fait, effectivement, il est envoyé au fin fond du pays pour garder un fort absolument désert où il se passe rien,
à la frontière du territoire des territoires indiens, Et c'est là qu'il va rencontrer une tribu et
un chien
et un loup et un monde en fait auquel il est complètement étranger et qui va le bousculer. On va pas en dire plus, mais ça va le bousculer. Alors c'est un film qui est donc sorti en 90, Danse avec les loups, adapté du roman homonyme de Michael Blake, qui est aussi au passage scénariste du film. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce premier thème, il faudrait aussi qu'on parle, tu m'as dit, de comment ce film a galéré à être fait.
C'est des années de développement, c'est des années de refus. C'est Kevin Costner qui est pas encore l'immense star qu'il va devenir grâce à Danse avec les loups et puis avec d'autres rôles ensuite. Mais c'est un acteur établi et qui veut faire son premier film, un western qui raconte en fait l'amitié d'une certaine manière d'un Américain avec des natifs indiens. Enfin, c'est un film qui n'a pas lieu d'être en 90.
À l'époque où ça sort, c'est complètement anachronique, on va dire.
Alors, imaginez donner des millions de dollars à un acteur, certes sympatoche, mais qui n'est pas non plus une star, qui veut réaliser son premier film, qui fait plus de 3 heures sur des Indiens, etc. Enfin, je comprends que les studios aient eu un peu peur, quand même.
Parce que pour remettre du contexte, c'est donc la première réalisation de Kevin Costner, qui est donc à l'époque un acteur, mais c'est pas un acteur, c'est un acteur qui est en plein essor. C'est-à-dire qu'il a fait Silverado de Laurence Kasdan en 85.
Qui est déjà un super western, mais pas du tout dans la même veine. Exactement. Que Danse avec les loups. Il a fait Les Incorruptibles.
En 87, de Brian De Palma, qui est peut-être le rôle qui le fait exploser, on va dire, à tous les niveaux, on va dire.
C'est un acteur... vraiment, encore une fois, pas lisse, il est pas lisse, hein, Kevin Costner, mais quand même, c'est quand même une belle gueule qui a joué dans des films un peu inoffensifs d'une certaine manière. Et il a envie, en fait, de changer totalement de registre et de porter, en fait, à l'écran un rêve qu'il a depuis toujours, c'est-à-dire faire du western, réellement faire du western. Et avec Danse avec les loups, projet de Danse avec les loups, il trouve le projet ultime, le projet rêvé, son meilleur film. De toute sa carrière, bizarrement, sa carrière commence en 90, elle se termine d'une certaine manière aussi en 90.
Les gens connaissent peut-être Costner maintenant, parce que c'est un acteur qui est moins sur le devant de la scène, mais ils connaissent plus Costner pour des films plus populaires comme peut-être Bodyguard ou JFK ou même Robin des Bois qui est vraiment peut-être le truc on va dire, qui ressort sur des pochettes, etc. Et tous ces films-là, donc Robin des Bois, Bodyguard et JFK, ça arrive après Danse avec les loups, ça arrive en 91 et 92. Donc là, quand il fait Danse avec les loups en 90, il n'a pas encore fait ces films-là, il n'a même pas encore fait Waterworld, qui est encore plus loin. Il est vraiment à un autre stade de sa carrière, il est en montée.
Il est quasiment en train de mettre sa carrière en danger pour mener à bien ce projet. Voilà. Alors je me contredis un peu quand je dis que ça s'est arrêté dans sa clé, parce que tu cites JFK, auquel je n'avais pas pensé. JFK qui est un autre sommet dans un autre genre, hein, pour Costner. Mais effectivement, il met sa carrière totalement en danger.
Il monte une boîte de prod pour faire son premier film et sa première réalisation. Il décide, du coup, tu l'as dit, d'en faire un western. Et c'est vrai que le western, le genre du western, Kevin Costner, il aime bien ça, puisque mine de rien, ça va être un fil rouge dans sa carrière d'acteur déjà, puisqu'il a été découvert avec Silverado, il a explosé avec effectivement Danse avec les loups, et ses trois réalisations, donc Danse avec les loups, The Postman et Open Range, sont trois films des westerns purs, soit The Postman, c'est un western post-apocalyptique.
C'est un western post-apo, mais effectivement, le western, c'est vraiment en fait son genre de prédilection. Danse avec les loups étant le chef-d'œuvre qu'il a réalisé, mais il ne faut pas mettre de côté Open Range, qui est un western un peu plus anodin, si je puis dire, mais pour le coup, on retrouve sa manière de filmer les paysages, et là, pour le coup, à la différence de Danse avec les loups, il fait des scènes de fusillade absolument dingues dans Open Range. Et ça, c'est fou. Alors, The Postman, moi j'ai beaucoup de sympathie pour The Postman, qui est effectivement un western post-apo, mais c'est quand même un grand film raté. Pour le coup, c'est vraiment un trip mégalo raté, The Postman. Mais effectivement, il y a ce fil conducteur, ce genre en fait, qui est au fond de son cœur, qui est le western.
Où en est le genre du western en 1990? Est-ce qu'il n'est pas, avant Danser avec les loups, est-ce que le western n'est pas complètement en soins palliatifs?
C'est quand même un peu dingue, parce que ça a été le genre majeur, le rendez-vous incontournable de tous les réalisateurs dans les années 40, 50, 60. Ouais. Il fallait faire un western, il fallait. Absolument. Et il y a des cinéastes majeurs qui ont fait leur carrière grâce au western. John Ford, il est sorti parfois du genre, mais John Ford, on pense à John Ford, on pense à western. Absolument. 40, 50, 60, c'est l'âge d'or. Et d'un coup d'un seul, c'est pas aussi simple que ça, mais ce genre va quasiment disparaître. Quasiment. Il y a d'autres obsessions, d'autres genres qui vont arriver et qui vont le mettre de côté. Quelque part, le western est un genre en fait qui va passer de mode. alors que c'était le fondement même d'Hollywood, réellement le fondement même d'Hollywood.
C'était l'épine dorsale du cinéma américain pendant 3-4 décennies.
Exactement, et aussi de la télé aussi.
Ouais, absolument. Les séries télé américaines qui ont découvert Steve McQueen ou
bien
d'autres,
sûr, Harrison Ford a commencé.
Clint Eastwood a découvert dans a été révélé dans Rawhide.
Et donc, on est en 90 avec Costner, Leta Wilson, il est en état de mort clinique réellement. Parfois, il y a des westerns de série B, série Z qui ressortent parce que c'est pas cher à faire, parce que il y a quand même un petit succès populaire d'une certaine manière, mais il y a plus trop de chefs-d'œuvre qui sortent non plus. C'est un western réellement, c'est un genre réellement qui est mis au placard et qui ressort de temps en temps. Et ça sera encore. C'est pas tant le fait le western qui devient entre 60 et 90 qui est intéressant, c'est ce que Danse avec les loups va faire au western à partir de 90. Ouais. Ça, c'est plus intéressant.
Alors juste pour remettre effectivement un petit peu de contexte, dites-vous que dans les années 80, le western, il doit y avoir un western un peu notable par an, et encore.
Ouais, c'est ça.
On a eu donc, t'as parlé de La Porte du Paradis en 80, il y a eu Pale Rider de Eastwood, pareil, dans ces eaux-là. Enfin, il y a eu Silverado, il y a Young Guns qui fait un peu ce genre de choses. Ouais. Mais après, le genre mute un peu. Du coup, on a Outland avec Sean Connery qui fait des westerns de science-fiction. On a des comédies comme Trois Amigos.
Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est Outland, c'est un western de SF.
Exactement.
C'est un western dans l'espace. Et le western, en fait, va irriguer en fait, d'autres genres. Et ça, c'est intéressant.
Il survit comme ça, finalement.
Il survit un peu comme ça. Je pense aussi à Retour vers le futur 3, en fait, qui était aussi un hommage au western avec Michael J. Fox, qui s'appelle Eastwood, dans Clint Eastwood. Je trouve ça très drôle. Encore une fois, il subsiste, il arrive parfois, en fait, à ressortir un peu du chapeau, mais on est loin du temps de la splendeur, quoi.
Et jusqu'à, du coup, Danse avec les loups de Kevin Costner. Ça va être, comme tu l'as dit, un succès critique.
Il a eu
7 Oscars et populaire, parce que ça va faire genre 400 millions de dollars au box-office, donc c'est un truc assez énorme. Et il faut le rappeler que c'est un film de 3 heures, donc c'est quand même un gros morceau, et pourtant ça a plu à une audience assez importante. Et pourtant, quand on le regarde, et j'invite les auditeurs à le revoir parce que c'est vraiment un film formidable, il ressemble pas tellement à un western. Je trouve que c'est un western pas comme les autres. Il n'y a pas tellement de fusillades, il n'y a pas d'énormes conflits, le héros est passif. Observateur, on dirait par exemple le personnage principal qui est donc John Dunbar incarné par Kevin Costner, on dirait un anthropologue qui
malgré lui,
un western qui ressemble pas à un western.
C'est un anthropologue, mais j'aime bien ça, un peu malgré lui encore une fois, il est héros malgré lui, il va découvrir les Indiens un peu malgré lui, tu dis qu'en fait il y a un truc, moi que je l'ai vu au cinéma le film en fait, à l'époque. Donc c'est pour dire que je suis un peu vieux. Moi, ce qui m'avait marqué au départ, c'était trois images. Premièrement, c'est le fait qu'il essaye d'adopter ce loup. Chaussette, de mémoire.
Oui, exactement, tout ça.
Ensuite, il retrouve cette femme ensanglantée qui a tenté de se suicider, McDonald, qui est formidable dans le film, qui en plus a croisé en fait, des natifs et des Américains. Et puis, il y a cette dernière image que je trouvais absolument dingue. C'est à la toute fin, je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais les deux en train de partir dans la montagne avec les peaux de bêtes, la neige, etc. J'ai envie de dire, il y a aussi les bisons, bien évidemment, il y a tellement d'images qui reviennent.
C'est une séquence des bisons.
Mais c'est formidable.
Mais du coup, ça... ouais.
Mais effectivement, c'est un western qui fait un pas de côté. C'est pas un western classique.
C'est pas un western de ville et de saloon, c'est un western d'espace.
C'est pas un western où ils vont dans le saloon pour se bourrer la gueule. Il y a une bagarre. C'est pas du tout. Exactement. Les enjeux sont totalement ailleurs. Les enjeux, ils sont même écologiques. Ils sont même aussi dans la réappropriation. Dans la réconciliation en fait des États-Unis avec leur propre passé, avec aussi c'est aussi la dénonciation des Américains de leurs méfaits vis-à-vis des Indiens, qui est quand même un message qui a déjà été abordé dans certains westerns, mais avec une telle puissance et un tel lyrisme, rarement, je vais voir jamais de mémoire en tout cas aucun. Donc c'est un western en fait c'est un western pleinement de son temps et pleinement classique dans Danse avec les loups, pleinement de son temps parce qu'il est fait en 90 et donc il y a une vision différente et en même temps pleinement classique parce qu'en fait dans l'imagerie, Costner, en fait, il fait pas du Ford, mais il tente en fait d'apporter une mythologie au paysage comme Ford savait le faire.
Alors pour les gens qui ne l'auraient donc pas vu, imaginez-vous que le film c'est un film qui est quand même très peu bavard, dans le sens où une grande partie du film c'est la voix off de Kevin Costner qui écrit dans son journal. Et donc, tu as cette voix off constante et qui me fait beaucoup penser du coup à un autre film qui fait un peu le même. Qui prend un peu le même procédé, qui est Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
J'adore ce film.
Où, pareil, tu vas avoir la voix de Brad Pitt qui va, ou la voix de Casey Affleck qui va parler en voix. Et tu as beaucoup ces plans de nature, de gens en errance qui réfléchissent avec cette voix off constante. Et c'est donc du coup pas du tout un western d'action et de conflit, mais c'est un western
de contemplation. Non, mais Dominique, je pense que Andrew Dominique, pour faire l'assassinat de Jesse James par lâche Robert Ford, en fait, a vu et revu dans Avec les loups. Mmh. Maintenant que tu fais le lien, ça me paraît évident. La voix off, bien sûr, mais cette effectivement, cette lenteur et cette forme de contemplation par rapport et au paysage, bien évidemment, mais aussi sur les personnages, sur les visages, etc., sur les blessures. Enfin, il y a un lien qui est assez évident, tiens. Mince.
Wow, super. Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette émission?
Mais grave.
Et donc, tu l'as déjà dit, c'est un film qui va questionner le rapport de l'Amérique à son histoire par rapport aux natifs américains, on va dire, aux Indiens d'Amérique. C'est un film, on en a parlé, qui est extrêmement contemplatif, qui est aussi écolo, parce que c'est l'un des thèmes, c'est comment, dans la conquête de l'Ouest, l'homme blanc, on va dire, a détérioré, cassé ce lien entre l'homme et la nature.
Ce champ de bison mort.
Ah, il est
enfin, ce champ de bison mort, en fait, on pourrait encore le montrer maintenant en disant voilà, l'agriculture intensive ou l'élevage intensif, etc. Enfin, il y a à faire là-dessus. Il faudrait le voir à peu près tous les 5 ans pour, en fait, voir qu'il est toujours d'actualité d'une certaine manière. Et surtout qu'en fait, cinématographiquement, il n'a pas bougé.
Mais du coup, là, on parle d'écolo, de droit natif américain, donc réflexion de l'homme par rapport à la nature, etc., etc. En 1990, parce que tu dirais que Danser avec les loups, il pourrait sortir en 2020, il serait complètement dans son époque. Est-ce qu'il n'était pas en avance sur son temps à l'époque quand il est sorti?
En avance sur son temps, pas vraiment. C'est juste qu'il a réussi à cristalliser, en fait, un western, à reprendre la tradition du western en faisant un film parfaitement moderne, aussi dans son message. Mais quand tu le regardes, en fait, il ne dépareille pas avec certains films des années 50-60.
Ce dont il parle, notamment sur les natifs américains, ça a une logique parce que dans les années 70-80, les droits des natifs américains ont connu un essor et du coup, il y a une sorte de période de récupération de droits. Mmh. Et donc, il arrive aussi à cette période-là où, on va dire, il valide, il cloute toutes ces 3 décennies où les natifs américains ont enfin récupéré certaines de leurs terres, certains de leurs droits, etc., etc. Donc, ça répond à ça jusqu'à présent, alors qu'Hollywood était peut-être plus sur du saloon et de la bagarre. Danser avec les loups, rappelons-le, est donc un succès public et critique. 7 Oscars, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur pour Kevin Costner. Donc c'est quand même un mec qui fait son premier film et qui repart avec une statuette de...
C'est pas mal.
C'est pas trop mal.
C'est pas mal.
Et donc 424 millions de dollars au box-office pour un budget de 22 millions de dollars. Donc en termes de... Voilà. Hein, en termes de rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal.
Ouais, mais c'est déjà un risque, hein, 22 millions de dollars pour faire un western.
Et à l'époque, en plus, 22 millions, aujourd'hui, t'as plus rien, mais à l'époque...
avec 22 millions...
Alors, rappelons...
22 millions, t'as plus rien.
Et du coup, la question peut se poser. On a vu que les années 80, c'était le désert au niveau du genre de western. Et là, on peut se poser une grande question. Le succès critique et public de Danse avec les loups va-t-il ressusciter, a-t-il revitalisé, ressusciter le western?
Revitaliser ou ressusciter? Pour moi, c'est encore un genre pas mort, mais c'est un genre, en fait, qui est une anomalie. C'est quasiment un exploit de faire un western maintenant. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est quasiment une anomalie. Et c'est plus un rendez-vous incontournable, comme ça l'était avant, mais c'est quasiment une prise de risque de faire un western. Donc il y en a eu. Alors, j'en ai noté aussi quelques-uns, parce que je... c'est un exercice qui me plaît, mais là pour le coup il y a des vrais chefs-d'œuvre qui ressortent dans le western après Danser avec les loups. Le western ultime de Eastwood, impitoyable, bien évidemment. Mais t'en as d'autres. Ce que j'aime bien aussi, c'est des réalisateurs qui s'attaquent justement au genre. Sam Raimi qui fait Mort ou vif, c'est intéressant, il le fait à sa manière. Exactement, les frères Coen qui font True Grit. Bien des années plus tard, en 2010, ça aussi c'est intéressant. Mais en fait, il y a Tarantino qui ne pouvait pas ne pas faire de western, compte tenu de sa culture et de son amour pour le cinéma américain.
Django Unchained, bien sûr.
Et les 8 salopards.
Et les 8 salopards.
Mais Tarantino ne pouvait pas ne pas faire de western, il ne pouvait pas ne pas se confronter au western. Donc oui, c'est un genre qui est en un peu meilleure forme qu'avant, Danse avec les loups. C'est pas non plus un genre qui a retrouvé sa splendeur, mais il y a des chefs-d'œuvre qui ressortent. Il y a de vrais chefs-d'œuvre, et plus régulièrement qu'avant.
Le genre était, on va dire, un peu était en mort clinique, tu l'as dit, en 90, Danse avec les loups. Et je pense que le combo Danse avec les loups, Impitoyable, qui a aussi extrêmement bien marché aux Oscars et au box-office, a lancé quelque chose de fort, et t'as cité des films. On pourrait citer aussi Tombstone, Dead Man de Jarmusch, qui propose aussi un western assez différent.
Mais c'est ce que j'aime bien, c'est quand les grands réalisateurs, en fait, s'attaquent à un genre, mais en fait le font à sa façon. Rémy l'a fait à sa façon.
Mais c'est vrai que quand tu balayes les années 90, t'as quand même des bons westerns qui arrivent à chaque année. Tu te dis, et en plus, comme tu dis, des propositions intéressantes en termes de genre. Et récemment, on a eu effectivement l'assassinat de Jesse James, de Andrew Dominique.
T'as Hostile aussi.
Hostile formidable. Alors il y a
il y a 3 ans, c'est ça.
Moi je trouvais ça formidable.
Mais qui me faisait penser aussi un peu à Danse avec les loups, pour certains côtés. Mais voilà, il y a des vraies belles propositions de western plus classiques. Il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure très justement, que le western en fait a infusé en fait un certain nombre de gens, parfois avec bonheur.
Moi j'imagine Danse avec les loups comme un peu le Gladiator de 90, c'est-à-dire que quand Gladiator est sorti, on s'est dit waouh, et c'est effectivement ça a lancé des séries sur Starz comme. Spartacus, il y a eu des mini revivals de.
T'as eu Pompéi aussi, de
Faut se rappeler qu'avant 2000, les Gladiators, le péplum, c'était nada, il y avait rien du tout. Et dans les années 2000, il y a eu des petites tentatives. Et du coup, j'aime bien faire ce comparatif. Est-ce que Danse avec les loups et le Gladiator du western?
Mais c'est pas bête, sauf qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas eu d'effet. Sur le temps de revitalisation du péplum. Est-ce que c'est quand même un genre.
L'histoire refait loi, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de western classique, le western à ses périodes, à ses qualifications. Western classique, western spaghetti, western crépusculaire. Comment est-ce que tu qualifierais Danser avec les loups?
Western lyrique.
Ah, c'est beau ça, j'y avais pas pensé.
C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, en fait, moi, encore une fois, je l'ai vu à sa sortie. C'est mon prof de français en 5e qui nous a emmené, je sais pas pourquoi, ce qui lui passait par la tête d'emmener ses élèves voir un film de plus de 3 heures.
Un génie.
Mais c'est un génie, c'est absolument un génie. Et en fait, parler du thème, très justement, de John Barry, il est rentré dans ma tête, et en fait, il a fixé les images de Danse avec les loups. Et ça m'a jamais vraiment quitté.
Je crois qu'on a bien vendu Danse avec les loups, donc si vous n'avez pas vu et si vous voulez revoir Danse avec les loups, on vous intime l'ordre et de le revoir, ce film magnifique de Kevin Costner. Et il nous reste à continuer sur le deuxième thème de cette émission.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux.
Ah, on aimerait la laisser filer, cette tirade du nez déclamée par Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, film également sorti en 1990 et qui est le cœur de notre second thème. Alors c'est un film qui est donc adapté de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, sorti en 1897. C'est un film avec Anne Brochet, Vincent Pérez, Jacques Weber et... évidemment, Gérard Depardieu,
GG,
dans le rôle principal de Savinien de Cyrano de Bergerac. Pourquoi on parle de Cyrano de Bergerac? Donc déjà, pour parler du film en lui-même, parce que ça a été un énorme succès aussi à l'époque, en 90, public et critique, et aussi pour discuter de Gérard Depardieu, puisque c'est un film qui, on va le voir, va bousculer un peu la carrière de Gérard Depardieu, en tout cas d'une certaine manière, d'un certain aspect, on va en parler. Déjà, première question, qui est Gérard Depardieu en 90? Parce que c'est pas un inconnu, c'est même loin d'être un inconnu.
C'est pas du tout un inconnu, c'est un enfant terrible du cinéma français. Il a quand même déjà, à cette époque-là, en 90, il a des chefs-d'œuvre.
Ah, c'est un immense acteur, déjà.
C'est assez monstrueux. C'est une bête sauvage, en fait, du cinéma. Ça a toujours été une bête sauvage, ça la restera toujours. Mais là, quelque part, c'est le casting idéal quand Rapneau dit Depardieu, c'est Cyrano. Et en même temps, c'est très étonnant. On a du mal à imaginer Depardieu en Cyrano. Il va nous
pourquoi
prouver. Je sais pas. Il y a une forme de rébellion, un peu de sale gosse, qui correspond à la fois au personnage de Cyrano et en même temps, on a l'impression que le costume il va être un peu taupe, étriqué pour Depardieu. C'est étonnant. Et en même temps, moi, il m'a prouvé totalement tort. Hein, donc merci. Merci, Gilles. Non, mais c'est déjà un acteur monumental.
Monumental, hein. Voilà.
Mais effectivement, il y a un avant-après. Mais en fait, il y a toujours eu un avant-après dans toute la carrière de Depardieu.
Bien sûr.
Il y a un avant-après Les Valseuses, il y aura un avant-après Cyrano.
Donc, il a tourné avec Truffaut, Le Dernier Métro, il a tourné, ouais. Donc on a vu, il a déjà tourné avec Bertolucci, donc 1900.
Il a la liste de chefs-d'œuvre qui
est. Voilà, en 90, c'est déjà l'un des plus grands acteurs français, ouais. Tout simplement. Et donc quand il s'attaque à Cyrano de Bergerac, tu l'as dit, il y a ce côté, on s'y attend, mais en même temps, ça peut coincer. Et c'est pas sa première figure historique, parce qu'il a déjà fait Danton, il a déjà fait Tartuffe, il a déjà fait. Jean de Florette, qui était déjà aussi une adaptation de...
Des
personnages tout le temps, donc déjà noble, idéaliste, toujours démesuré d'une certaine manière. Et peut-être à l'image de Depardieu.
Alors, plus grand que nature, ou sur mesure, ça c'est un peu les deux. En fait, moi je mettrais un parallèle entre Cyrano et Obélix.
Ouais.
C'est la même chose. Ça, ouais. C'est exactement la même chose en fait. C'est des monuments de la littérature.
Bien sûr, quand même. Absolument.
Tout le monde les connaît. Ouais. Tout le monde a au moins une réplique de Cyrano ou d'Obélix. Hein.
La tirade du nez. Ou
voilà. Est-ce que je peux en prendre la potion magique?
Je suis pas gros.
Qui est gros ici? C'est la même chose. Ils sont plus grands que nature. Et en fait, il y a un acteur qui peut les jouer de manière aussi sérieuse l'une que l'autre. Sérieuse, c'est-à-dire investie. Mais et aussi juste, c'est Depardieu. Enfin, c'est vraiment.
Il est formidable ce parallèle.
Mais non, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est des rôles de Depardieu.
Où l'acteur et le personnage s'entremêlent.
On s'aperçoit que c'est idéal. Il n'y a qu'un acteur pour jouer les deux, réellement.
Cyrano, c'est un rôle qui, on en a parlé, va un peu bousculer, ou en tout cas va impacter la carrière de Depardieu, ne serait-ce que dans l'impact du film et du personnage, puisque c'est un rôle qui va lui donner le prix d'interprétation masculine officiel de Cannes, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a tous les 4 matins.
Non.
Qui va lui donner le César de meilleur acteur, mais vu la concurrence de l'époque, c'est peut-être évident de lui donner le César.
Mais je pense que tous les acteurs se sont arrêtés de jouer. Enfin, non, c'est bon, c'est plié, j'arrête.
C'est bon, c'est voilà.
À l'année prochaine.
Et c'est un film qui va propulser l'acteur d'une certaine manière, avec son prix d'interprétation à Cannes, etc., etc., sur le devant de la scène internationale,
oui.
Et notamment sur la scène américaine, et notamment sur la scène hollywoodienne, puisque c'est un film qui va lui donner une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. En 1990, ce qui est assez phénoménal pour un Français, puisque, pour vous donner une idée, il n'y avait pas eu d'acteur français nommé à l'Oscar depuis Charles Boyer en 62. Vous
donne oh
quand même, ça fait quand même longtemps, et il n'y en a pas eu
jusqu'à
Dujardin, 22 ans plus tard, et Jean Dujardin, on le rappelle, l'a remporté en 2012 pour The Artist. Donc c'est vrai qu'un acteur français nommé à l'Oscar, c'est encore une fois une rareté, et ça a été le cas pour Depardieu avec Cyrano. Alors, c'est drôle parce que on s'est posé la question, est-ce que Cyrano de Bergerac a-t-il changé Gérard Depardieu? Tu m'as dit pas forcément, c'était déjà, enfin c'était, etc. Moi, en faisant des recherches, j'ai remarqué que le personnage était important pour l'acteur, parce
oui.
que, faut le rappeler, Gérard Depardieu, c'est donc un acteur français qui, c'est quelqu'un qui est venu de Châteauroux, qui est d'une origine très très modeste, c'est quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, etc., etc., et qui a trouvé une porte de sortie vers le théâtre et le fait d'être acteur, etc., etc., mais c'est quelqu'un qui est peu éduqué, peu cultivé de base, et il a raconté dans des entretiens notamment que quand il a découvert Cyrano de Bergerac, l'ouvrage, il a découvert le poids des mots, le sens des mots, comment on pouvait aussi bien écrire, aussi bien parler. Et il a dit que Cyrano de Bergerac avait été important dans sa carrière d'acteur pour
ça, c'est sans aucun doute. C'était son rôle, c'est le rôle de sa vie, de sa vie intime et de sa vie professionnelle, très clairement. Cyrano, c'était son totem. Et ensuite, il faut attendre le bon projet, le bon réalisateur, le bon moment. Enfin, il y a tellement d'étoiles qui doivent être alignées.
Il n'aurait peut-être pas pu le faire 10 ans plus tôt, quoi.
Il n'aurait pas eu.
Ou différemment.
Ouais, différemment. Mais en fait, non, mais c'est un petit miracle. Ensuite, moi, je ne suis pas totalement fanat du film absolu, mais c'est un petit miracle. C'est un petit miracle aussi que ça ait eu autant de succès, réellement.
Et donc, Cyrano de Bergerac va donc propulser notre GG national, imaginez ça, à Hollywood. Donc, changement d'échelle phénoménal pour GG. Qui va découvrir les plateaux de télé, les talk shows et la langue anglaise qu'il maîtrise pas du tout.
Il n'est pas bilingue.
Je vous invite à regarder notamment deux choses. Depardieu à Letterman. Donc Depardieu en anglais, qui ne parle pas du tout anglais. Donc on a vu qu'il a pris 2-3 cours, donc il peut comprendre vite fait les phrases et il répond par yes, yes, no et rigole de manière à gorge déployée quand il ne comprend pas. Bref, c'est Gérard Depardieu et c'est formidable. Et son discours au Golden Globes, quand il remporte le Golden Globes du meilleur acteur en 91 pour Green Card, où il donne du coup encore un discours en langue anglaise
Il a renvoyé une bonne image des Français.
Voilà. des Français qui ne parlent pas anglais, qui rigolent, qui ne savent pas, un peu bourrés effectivement aussi. Mais du coup, alors en 90, on a Cyrano, on a l'Amérique qu'il découvre, on a dans la foulée du coup, juste après qu'il ait eu son prix d'interprétation, à Cannes pour Cyrano de Bergerac, il y a le film Green Card de Peter Weir qui sort, donc c'est son premier rôle, si je ne m'abuse, américain. En tout cas, c'est son premier film, on va dire, à Hollywood, véritablement, puisqu'il est face à Andy McDowell.
Ah, c'est clairement un film hollywoodien.
Voilà, il est face à Andy McDowell et il joue en anglais. Et donc, 90 va filer comme ça, et donc il y a cette nomination à l'Oscar qui file toute l'année. Il y a ce parcours idéal qui semble s'ouvrir pour Depardieu, mais pourtant, il ne va pas faire carrière à Hollywood, ça ne va pas marcher. À ton avis, pourquoi ?
Déjà, est-ce qu'il avait vraiment envie de faire carrière à Hollywood ? C'est vraiment une question qu'il faudrait lui poser un jour, sérieusement. Deuxièmement, je pense qu'il est, lui, il est, bah, bizarrement, je ne pense pas qu'il soit aussi carriériste que ça. Donc, en fait, il va où le...
Où le vent le mène.
Où les bonnes bouteilles sont. Où le vent le mène, c'est ça. Où le vent le mène. Où le vin le mène.
Le vin le... Ah, ben
ah,
voilà.
C'est pas mal. Non, non, je pense qu'il choisit un peu les projets comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, il était carriériste ? Oui, clairement, au début des années 90, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de plan de carrière qui se met en place aux États-Unis. Est-ce qu'il avait le talent pour faire carrière aux États-Unis ? Quand je dis le talent, c'est jouer. Pour le coup, tu disais qu'il ne sait pas parler anglais. Il sait vraiment pas bien anglais. Ouais. C'est quand même difficile de faire carrière aux États-Unis si tu ne sais pas parler un brin anglais. Ouais. Du jardin a au moins cette qualité-là. Ensuite, on peut critiquer ou pas la carrière actuelle de Dujardin avec les États-Unis, c'est autre chose. Mais il n'avait pas forcément le talent et les outils pour le faire. C'est difficile de le mettre dans une case de Pardieu, quand même, franchement.
Il a sa propre case, en fait. C'est même pas une case.
Il a créé son tonneau.
Voilà. Il change de case et puis il pousse les gens et puis il casse les murs.
Donc c'est quand même très. C'est quand même. Enfin, le mariage ne va pas. Le mariage ne va.
Oui, en fait, pourquoi la carrière de Pardieu à Hollywood n'a peut-être pas fonctionné ou n'a pas fonctionné comme on pouvait l'espérer. C'est juste qu'il n'avait pas besoin d'une carrière à Hollywood de Pardieu. Il avait déjà tout ce qu'il voulait en France et en Europe, en fait. Il n'a pas tellement besoin d'aller voir les Anglais. Que son tempérament, peut-être que sa personnalité, ne collait pas au canon hollywoodien, tout simplement.
Oui, je pense.
Ce qui me paraît assez sérieux. Quand tu regardes Depardieu à Hollywood, tu te dis, bon, effectivement, ce n'est pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné. Du coup, je me suis intrigué, parce que quand tu vois la trajectoire, tu te dis, ah là, prix à Cannes, Oscar, Golden Globes, machin, tout est ouvert pour Depardieu, tu te dis, c'est forcément, etc. Et en fait, quand tu regardes un peu l'histoire, tu te rends compte que en 90, au moment où, on va dire, sa hype pour les Oscars grimpe, il y a une histoire qui arrive aux États-Unis, qui est qu'un journaliste du Time Magazine révèle, on va dire, ressort une vieille interview de 78, où l'acteur ou Depardieu avait avoué participer à des viols dès l'âge de 9-10 ans, quand il était très très jeune, dans sa ville natale à Châteauroux. Et donc, effectivement, quand le Time sort cette histoire-là, ça crée un scandale monumental aux États-Unis. Du coup, lui, il est en pleine promotion pour Cyrano et pour l'Oscar, etc. Donc forcément, ça peut aussi entamer cette crédibilité. Et les Français, lui et son agent, disent « Oui, mais la traduction française est erronée. » Là, ils disent que j'ai participé à un viol alors que j'étais que témoin. Donc ça a un peu changé. Donc cette histoire a pu mettre un peu de plomb dans l'aile dans cette carrière hollywoodienne qui s'offrait à lui. Et du coup, au final, Depardieu ne se déplacera même pas à l'Oscar 91 où il est nommé. L'Oscar ira d'ailleurs à Jeremy Irons pour Le Mystère Von Bülow. Et malgré ça, cette carrière US qui effectivement va être endommagée, va être freinée et tout ça, elle ne sera pas arrêtée. Depardieu va faire pas mal de films aux États-Unis, des films comme Bogus, comme L'Homme au Masque de Fer, comme Les 102 Dalmatiens.
Mais tu cites les meilleurs.
Mais pourquoi il y a vraiment des meilleurs. Non,
pourquoi tu déflores.
Mais il a fait aussi donc 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, qui est un film européen, mais en langue anglaise. Il a joué dans Hamlet de Kenneth Branagh, il a joué Vatel pour Roland Joffé, on le verra en 2012 dans L'Odyssée de Pi. Si on faisait le bilan, calmement, quel sens on peut donner à cette carrière internationale de Depardieu ? Est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce qu'elle est ratée ? Est-ce qu'il a vraiment toujours jamais voulu faire une carrière internationale ?
Non, encore une fois, je pense que... Alors, je ne connais pas Depardieu personnellement et intimement, je ne connais pas Gégé. Non, je pense d'abord que c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui marche à l'affect et donc aux rencontres. Réellement. Et c'est quelqu'un parfois qui a ce côté ogre par rapport à un personnage. Mordre vraiment dans un personnage pour le bouffer et en mettre plein partout, si je puis dire. 1492, c'est un super exemple. Hein.
Film franco-anglo-espagnol.
Encore une fois, personnage. On demande à Depardieu d'interpréter Christophe Colomb. J'ai envie de te dire, vas-y, fonce, mon gars. C'est aussi quelqu'un qui marche à la provoque, comme c'est pas permis. Ensuite, moi, sa carrière dans les pays de l'Est, là, parce qu'il fait quand même beaucoup de films dans les pays de l'Est maintenant, je la suis pas du tout, donc je peux pas vraiment la juger. Il y a quand même un rôle pour revenir au côté provoque, qui m'a vraiment heurté réellement. C'est Welcome to New York d'Abel Ferrara, où il joue donc
Dominique Strauss-Kahn.
Voilà. Et là, très clairement, en fait, c'est un film raté, sans aucune distance, aucune auteur qui vraiment se pavane dans le vulgaire. Réellement, c'est vraiment un film détestable. Et là, on s'aperçoit que Depardieu, en fait, DSK est un personnage aussi hors norme, Mais là, il y a le côté un peu provoque de Depardieu. Je pense aussi que c'est une des raisons qui fait que Depardieu, il pouvait pas rentrer dans certaines cases. Ce qui m'intéresse plus dans Depardieu, c'est qu'en fait, il y a une résurgence du vrai Depardieu qu'on aimait, quand il nous étonne à nouveau. Je pense à Mammouth, par exemple, Carvane Delépine. Il dépouille absolument son interprétation, il n'en fait pas des caisses. Et là, on retrouve en fait l'acteur formidable qu'il a été, qu'il est encore, parfois. Moi, je trouve ça incroyable.
Mais... Effectivement, on peut rappeler 1900 de Bertolucci, où il est plus jeune, il est sublime, il est avec De Niro, il est dans un film d'époque, donc c'est assez formidable comme film, on va dire, c'est peut-être son premier film international d'ailleurs à l'époque. Est-ce que tu aurais un film de sa carrière internationale comme ça que tu conseillerais? Moi c'est vrai que j'aurais 1492, Christophe Colomb, malgré ses gros défauts et malgré que c'est un film qui ne tienne pas debout, je considère qu'il faut le voir parce que c'est Ridley Scott et parce que c'est Depardieu, et Ridley Scott, Depardieu et le sujet aussi, c'est forcément intéressant.
Décroche les étoiles de Nick Cassavetes, c'est un petit film réellement, dans son ambition, etc. C'est quand même réalisé par le fils Cassavetes et le fils Roland. Il y a un beau casting, justement, dépouille son interprétation, mais ça montre aussi que lui il marche beaucoup à l'affect. Cassavetes, il était lié, il aime bien le fils, Diana Roland, il l'adore. Il accepte de faire ce petit film, réellement. Et c'est un film que vous verrez, il va vous toucher pendant 1h30, 2h. Vous l'aurez oublié dans à peu près 1h30, 2h. Voilà, c'est un petit film, en fait, humble. Ouais. J'aime bien quand Depardieu, il est humble. Totalement contre nature pour lui, mais dans son interprétation.
Mais ça lui arrive, ouais, effectivement. Je ne sais pas si je pourrais vous conseiller autre chose que Christophe Colomb. C'est juste que peut-être que Cyrano de Bergerac, d'une certaine manière, a permis à Depardieu d'exploser sur la chaîne internationale et de faire les pubs Barilla dirigées. Réalisé par David Lynch. Oui, parce que Gérard Depardieu tourne en 94 et 95 des pubs Barilla dirigées par David Lynch. Et c'est peut-être un peu grâce à Cyrano de Bergerac et je trouve ça formidable.
Je me rappelle, ça m'est revenu. Où tu le vois au-dessus de la casserole et puis il jette une pâte comme ça. Il y a une lumière qui est magnifique.
En fait, t'as une gamine qui se casse la gueule dans la rue.
Il lui a
à manger. Il est en train de lire à une terrasse de café. Il lui fait des pâtes. Et après, t'as une meuf qui tombe et il fait « Hey, je te referai des pâtes. » Genre... C'est formidable. Et c'est vrai que pendant... Moi, quand j'ai grandi avec des pubs où Depardieu, il était avec sa petite chemise bleue et il était avec ses pubs, ses pattes barrières. Il rentre dans les cuisines, il fait ce qu'il veut.
Le retour dans le passé que tu viens de me faire, là. Oh là, là.
Réalisé par la Palme d'Or, David Lynch.
Coucou à toi, Charlotte.
Coucou, Charlotte Bloom. Voilà, ça, c'est magnifique. Mais donc, regardez-là, cette pub, elle est formidable. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème. Thomas est choqué, mais pas déçu, j'imagine.
Non,
on va continuer cette émission avec notre troisième et dernier thème. Et on va filer, on va dire, notre ligne rouge, qui est peut-être la ligne rouge de cet épisode, qui est ces grands portraits d'acteurs, finalement, avec donc le troisième thème de notre émission. On est parti. Quelle musique oppressante, quelle musique pressante, cette musique de John Williams du film Présumé innocent, également sorti en 1990. Présumé innocent, film d'Alan J. Pakula avec Harrison Ford, Raoul Julia, Brian Dennehy, sur un procureur qui se retrouve en charge du meurtre violent de l'une de ses collègues, avec lequel il a peut-être plus de liens qu'il n'y paraît. Et pourquoi on parle de Présumé innocent de Pakula? Dans ce troisième thème, tout simplement, parce qu'on veut parler un peu du film, mais beaucoup de l'acteur principal de ce film, Harrison Ford, dont Thomas Destouches, notre invité, est un petit peu fan.
Un tout petit peu fan.
Alors avant de parler du film, justement, j'ai envie de tout de suite mettre les pieds dans le plat. Il est Richard Kimble, il est Jack Ryan, il est Rick Deckard, il est Indiana Jones, il est Han Solo. Après tout ça, c'est qui vraiment Harrison Ford?
Harrison Ford, c'est assez simple. C'est un acteur à l'ancienne, réellement à l'ancienne, mais qui en fait symbolise l'ère moderne des blockbusters. Donc c'est quand même un alliage vraiment très étrange. Enfin, c'est vraiment. Je parlais de Gary Cooper tout à l'heure, mais Gary Cooper et Harrison Ford, encore une fois, là, c'est pas du tout James Stewart. Hein,
c'est vraiment
du Gary Cooper. Donc il est taillé comme un Gary Cooper, mais en fait, il est dans l'époque où il symbolise réellement le blockbuster moderne. Star Wars, Indiana Jones, etc., 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 etc. Donc pour moi, déjà, c'est ça, Ford, c'est ce paradoxe-là. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est qu'on parlait de Western tout à l'heure, mais Ford, il a commencé sa carrière, quand même, dans les années 60. Et il a commencé dans pas mal de Western. C'est pas son premier film,
mais
son premier rôle. Mais il a fait beaucoup de Western dont un qui est absolument détestable, qui s'appelle La Brigade des Cowboys, où il n'est pas du tout bien coiffé d'ailleurs.
C'est vrai que toi tu es parti dans un projet assez fou de voir tous les films d'Harrison Ford, ou en tout cas toutes les apparitions, tous les rôles d'Harrison Ford, depuis le tout début jusqu'effectivement à la fin. T'en es où là? T'es à quelle année?
Alors, malheureusement, ce projet fou a du plomb dans l'aile en ce moment, parce qu'en fait, à cause du confinement, du télétravail, des enfants, c'est quand même compliqué de trouver deux heures pour...
C'est une sacrée entreprise, parce que Harrison Ford, c'est quand même 83 rôles depuis 66, et une carrière sur 7 décennies, ce qui est quand même une carrière assez unique aussi.
Harrison Ford, il a beaucoup tourné, entre guillemets, enfin... à partir des années 80, ça commence à se ralentir un peu. Il fait très petit dans les années 80, et très petit dans les années 90, etc. Donc je suis dans le dur.
Il te manque, et on va peut-être faire un appel là, parce que tu as tous ces films, ou tu as toutes ces apparitions, il y a un rôle d'Harrison Ford que tu ne retrouves pas.
J'ai récupéré absolument tout, entre les achats, les trucs que j'avais, etc. J'ai tout retrouvé, sauf un. En 69, en fait, il joue dans un épisode d'une série qui s'appelle My Friend Tony. Il ne reste, en tout cas, c'est pas dispo en DVD, c'est pas dispo en streaming, c'est pas dispo en téléchargement. Il ne reste qu'une bande-annonce qui est visible sur YouTube. Contactez le studio, le network, le diffuseur de l'époque, et ils ne peuvent rien faire pour moi. Donc,
un appel à l'aide, voilà. My Friend Tony.
Le saison 1, épisode 6 de My Friend Tony, si quelqu'un l'a.
Si quelqu'un l'a.
Je lui donne son poids en champagne.
Exactement, envoyez-le, voilà, à Thomas Destouches. Moi, j'allais te poser la question, on a vu quel genre d'acteur était Harrison Ford. T'as dit que c'était un acteur un peu comme Gary Cooper. Qu'est-ce qui fascine avec Harrison Ford? Qu'est-ce qui nous fascine dans Harrison Ford après toutes ces décennies?
Je vais répondre en deux temps, si ça ne te dérange pas. Il y a déjà ce qui me fascine, moi, chez Ford. Moi, quand je vois Ford, je vois mon père. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que j'ai un amour inconditionnel pour Ford. C'est que pour moi, mon père, c'est Harrison Ford. Ou Harrison Ford, c'est mon père. Enfin, c'est inconscient, je pense, depuis ma jeunesse. Mais pour moi, c'est lié à ça. Pour des raisons que je pense qu'un psy pourra m'expliquer dans 20 ans. Mais vraiment, il y a cet attachement, cet ancrage-là grâce à mon père.
Très intime, ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qui fascine chez Ford? Pour la plupart, en tout cas de ceux qui vont regarder, qui vont écouter Année Lumière et qui travaillent un petit peu avec nous, etc., on a tous grandi avec Ford. Tous. Ça a toujours été un rock de notre cinéma.
On a tous notre Ford.
On a tous notre Ford. Tu peux ne pas être fan de Star Wars, mais tu seras peut-être fan d'Indiana Jones. Enfin bref, il a pas non plus une filmographie qui est... avec un répertoire de fou.
Oui.
Mais on a tous grandi avec Ford. C'est un phare dans notre vie, réellement. Donc on a tous ça. Donc je pense déjà qu'il y a cet attachement au fait qu'on l'a toujours connu, réellement, tous. Deuxièmement, citez-moi d'autres acteurs qui ont trois personnages iconiques comme Ford.
Et trois, t'es gentil.
Parce qu'il y a Rick Descartes, on va dire que les gens vont me dire « Ouais, mais non, mais Blade Runner, Rick Descartes, c'est iconique. Merci pour ton t-shirt, vous ne voyez pas, mais il y a un t-shirt qui rappelle ça. » Il y a Rick Descartes de Blade Runner. Et Blade Runner 2049. T'as Indy et t'as Han Solo. Dans les commentaires, dans les machins, etc., sur les réseaux, dites-moi en fait quel acteur a trois personnages iconiques à ce point-là dans sa carrière. Réellement. On pourra toujours m'en citer deux, etc., mais trois, ça va être très difficile.
Très, très compliqué. Hein. Tu penses forcément aux immenses, c'est-à-dire John Wayne. John Wayne, il a pas de rôle.
John Wayne, j'ai vu une citation de lui qui était très bien, qui dit
Clint Eastwood,
j'ai passé ma carrière à jouer John Wayne et ça m'a plutôt pas mal réussi. Ben voilà.
Clint Eastwood, tu vas avoir
il faut citer
l'homme,
les noms.
L'homme sans nom.
il faut citer les noms. L'homme sans nom. Ok, c'est bon.
Non, mais t'as raison. Blondie, Dirty Harry et...
C'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Qu'est-ce qui fascine aussi chez Ford, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont ce... Ils sont rares sur Terre aussi. C'est une star, quoi qu'il arrive. Quand tu le vois à l'écran, tu sais que c'est une star. Tu sais que c'est un gars, un homme... qui est fait pour ça. Il a été taillé pour ça. Mmh. Et c'est aussi une gueule aussi. Ouais, il est d'une beauté absolue, mais il a des défauts. Il a des défauts, réellement des défauts, qui font partie de sa beauté.
Il y a deux visages en un.
Exactement. Il a cette fameuse cicatrice qui raconte tellement, tellement de choses. Aussi au niveau de son menton, qui d'ailleurs, Indiana Jones 3 joue avec ça. Mmh. Mais qu'est-ce qui fascine chez Ford? C'est que c'est purement du cinéma. C'est purement du cinéma, Ford.
C'est une incarnation de cinéma, lui. Quand on le regarde, c'est plaf, on se prend un train de,
exactement,
de cellulose dans la...
Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire que c'était une armoire à glace.
Bah, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai remarqué, du coup, quand tu regardes, j'ai regardé beaucoup d'Harrison Ford cette année, en 2020, là, avec le confinement. Harrison Ford, c'est quelqu'un qui est taiseux. C'est quelqu'un qui est, oui. Hors dehors de ses films, dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui est intellectuel, assez cérébral, qui dit de la philosophie, on peut écouter Carrie Fisher qui parle de son rapport avec Harrison Ford, qui quand il se fréquentait, citait du Goethe, etc., etc. C'est quelqu'un qui est très cérébral et pourtant, il fait aussi des... t'as ce côté aussi physique qui est non négligeable. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, Harrison Ford, c'est vraiment Indiana Jones. C'est que c'est des mecs, il est prof à l'université, il a ce côté très cérébral, et à côté, il va sauver des trésors et des choses comme ça qu'il pouvait ramener dans les musées. Il a ce côté homme d'action, homme d'esprit qui se combine
fois,
bien. Quoi.
Oui, encore une fois, on revient aussi au paradoxe, qui est intéressant, mais aussi au mystère, en fait. C'est une star à l'ancienne, c'est pas une star, en fait, qui a profité réellement du... On sait finalement assez peu de choses, finalement, de Ford. Ouais. On sait vraiment peu de choses.
En 90, Harrison Ford fait donc Présumé innocent. Presumed innocent.
Presumed innocent.
D'Alan G. Pakula. Alan G. Pakula, c'est quand même quelqu'un qui a fait des films comme Clute, Les Hommes du Président, Le Choix de Sophie, donc c'est un mec qui a une carrière assez importante, et qui en 90 fait donc Présumé innocent. Faut noter, c'est juste après Indiana Jones, La Dernière Croisade, qui fait en 89 avec Spielberg, et juste avant, à propos d'Henri et de Mike Nichols, et Jeu de guerre, et donc le premier film de Jack Ryan, de Philip Noyce, en 92. Donc, Présumé innocent se place juste là. Et c'est le premier de ces deux films avec ce réalisateur-là, puisque Harrison Ford retrouvera le réalisateur pour Ennemi rapproché en 97, quand il jouera aux côtés de Brad Pitt, qui sera du coup le dernier film d'Alan G. Pakula, d'ailleurs.
Malheureusement.
Tu as commencé un peu à en parler. Où en est la carrière d'Harrison Ford en 90 et comment elle va évoluer à partir de 90, du coup?
Déjà, où on en est en 90, il sort en fait d'une décennie fantastique. C'est sans doute une des plus belles décennies pour un acteur.
Ouais.
C'est juste...
Star Wars, Blade Runner...
L'Empire contre... Il y a des succès qui sont immensément populaires. Les deux derniers, les Star Wars 5 et 6. Il a fait de la comédie romantique pour King Hulk, qui est un immense succès. Mm. Il a fait les 3 Indiana Jones. Il a fait des chefs-d'œuvre comme c'est pas permis. Donc,
avec Peter Weir, Witness et Mosquito Coast.
Le diptyque Witness, Mosquito Coast, ils sont des chefs-d'œuvre. Mais formidable. Il y a aussi Blade Runner. Encore une fois, Indy et Star Wars. C'est aussi la décennie en fait, où il va travailler avec le plus grand nombre de grands réalisateurs. Spielberg, bien sûr, Peter Weir, Roman Polanski avec Frantic, Ridley Scott, Mike Nichols. C'est des personnages mythiques, ça c'est ce que je disais plus tôt. Et c'est aussi en fait, la décennie où en fait, il livre des performances absolument incroyables. Mmh. On s'aperçoit que Harrison Ford n'est pas qu'un acteur cool, un
pas
super perso,
ouais.
Mais c'est aussi un superbe acteur. Frantic, il est formidable dedans. Mosquito Coast, j'en parle même pas. Witness, c'est sa seule nomination à l'Oscar, il est absolument incroyable.
Absolument formidable.
Donc la décennie des années 80, pour le coup, c'est sa décennie à lui, celle qui fait définitivement entrer dans la légende du 7e art. Donc voilà, quand on arrive en 90, il fait Présumé innocent, qui marque... pas un changement, parce qu'en fait, il a déjà essayé de casser son image. Mais par contre, c'est une vraie cassure. Moi, pour l'anecdote, c'est mes grands-parents qui m'amènent voir Présumé innocent au cinéma, en 90. Et en fait, ils y vont simplement... Enfin, ils m'emmènent simplement parce que c'est Harrison Ford. Et Harrison Ford, c'est un acteur populaire. Mm. Ils se doutent pas une seule seconde du film qu'on va voir.
Ah oui,
donc ça a été une gênance totale de voir ce film avec mes grands-parents.
Un film, voilà, de mœurs, de
ouais, non, il y a une scène de sexe. C'est là où je me suis aperçu que Han Solo, il pouvait faire autre chose aussi. Et Indy, il pouvait faire autre chose. Et ça marque vraiment un tournant pour moi, mais c'est pas Présumé innocent qui marque un tournant, c'est plutôt la décennie 90 qui va marquer un tournant, si je puis dire, pour Harrison Ford. Il y a eu la décennie 80 qui était formidable, remplie d'autres choses. La décennie 90 va parsemer de succès, mais en fait, beaucoup moins de grands films. Il y a beaucoup de...
Tu dis que c'est une volonté de sa part, il a voulu casser une dynamique, peut-être ?
Non, il a pas... non, je pense qu'il a essayé, mais à un moment donné, il y a une part de chance aussi, il y a une part de rencontre. Il pouvait pas faire la même grande décennie après, ça, c'est pas possible.
Moi, j'aime beaucoup les Jack Ryan, mais c'est pas des chefs-d'œuvre.
C'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des succès populaires. Il y en a. Il y a Présumé innocent,
Air Force One,
il y a Jeux de guerre, Danger immédiat, Le Fugitif.
Toujours cette nuit.
Air Force One, je suis allé voir au cinéma et j'ai souffert.
Toujours cette nuit.
Ouais. Mais en fait, par contre, il y a cette volonté de bouger un peu plus son image. Donc, il joue le anti-héros un peu trouble. C'est Présumé innocent, réellement. C'est, à ma vie, d'ailleurs, c'est un vrai succès populaire, hein, Présumé innocent, quand il sort. Et c'est sa seule tentative réelle de bouger son image qui s'est traduit par succès populaire. Il devient aussi un héros faillible, à propos d'Henri. En fait, c'est un personnage qui est diminué. Il devient un héros vraiment romantique, avec Sabrina.
Il fait un Jack Ryan, c'est, on dirait qu'il a envie de refaire...
C'est un action-héros.
Alors qu'il est quand même déjà vieux. Il est né en 42, donc il a 48 ans en 90. Déjà...
Il essaie de se transformer en action hero avec les Jack Ryan, le fugitif, Air Force One, qui est une bonne réplique, c'est tout dans le film, mais quelle super réplique qui tape.
Get out of my plane.
Exactement. Il est toujours une immense star parce qu'il a toujours des succès. Et en fait, 90, c'est une sorte de fuite en avant qui va l'enfermer un peu dans une image. Et cette, ça va avoir comme conséquence les années 2000 pour Harrison Ford, qui sont un peu tristes, réellement.
Et du coup, est-ce que toi, tu as vu une évolution, par exemple, dans son jeu d'acteur entre les années 80 et 90? C'est alors, toujours intéressant de voir comment les acteurs mûrissent.
Il change pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à quel point en fait, les réalisateurs peuvent le pousser à faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je cite toujours ce diptyque Mosquito Coast, enfin Witness Mosquito Coast. Formidable. Parce que là, Peter Weir, il se passe un truc bizarre. On a l'impression qu'Harrison Ford, en fait, bougé par les personnages, par les enjeux des films, par le réel, en fait, change de catégorie de jeu. Et il est vraiment incroyable.
Et il fait beaucoup de films avec les mêmes réalisateurs. Donc, Pacula, il a fait deux films. Mike Nichols, il a fait deux films. Ouais. Pollack, il a fait deux films.
Le parallèle entre Présumé innocent de Pacula et Ennemi rapproché de Pacula montre vraiment justement l'évolution d'Harrison Ford dans les années 90.
Ouais.
Quand il fait Présumé innocent, il prend un risque. Réellement, déjà, il n'y a pas la même coupe de cheveux. Alors, ça peut paraître un détail, mais voir en fait Harrison Ford avec les cheveux quasiment rasés, enfin très 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 courts, c'est autre chose. Ça change l'image qu'on se fait de lui. C'est un anti-héros vraiment trouble, réellement.
C'est presque un méchant.
Mais il flirte avec ça, et c'est aussi étonnant. Deuxièmement, tu parles de Ennemis rapprochés, donc c'est 97, c'est
ouais,
ça
exactement, dernier
qui est un film totalement raté. Mais pourquoi il est raté? Parce que Ford et Pitt peuvent pas s'entendre, parce que t'as le vieux qui aime bien que ça soit bien rangé, etc., avec le jeune chien fou, Pitt,
qui vient d'arriver,
qui est en train d'exploser, parce que Pacula arrive pas à tenir le truc, parce que le scénario est pas bon, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, c'est Ford qui s'est enfermé dans l'image de ce héros, en fait, infaillible, pour le coup. Ouais. Et en fait, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est pour ça que le film ne fonctionne pas. C'est aussi pour ça que le mariage avec Brad Pitt ne pouvait pas fonctionner. T'as une sorte de vieux con, Harrison Ford, ouais, qui veut garder absolument, conserver cette image.
Son image,
etc.
Ouais.
Et en fait, tu t'aperçois que c'est déjà trop tard. Et que justement, il fallait enclencher justement.
Et ça s'est confirmé, du coup, après, dans la suite de sa carrière. Là, on est en 2020. Qu'est-ce qu'il est devenu Harrison Ford en 2020? Il a, à part rejouer ses rôles les plus iconiques, et
c'est intéressant
soit se faire
c'est
mourir, soit...
Mais c'est intéressant qu'il rejoue ses rôles, justement. Blade Runner 2049, c'est extrêmement intéressant. Enfin, pour moi, je ne le place pas au niveau du Blade Runner de Ridley Scott, mais je le place très très haut. Pour moi, c'est un très très grand film. Quand il reprend Han Solo, dans le 7... Je trouve ça incroyable. Dans le 9, je trouve ça dommage. Mais il revisite ses rôles. Il est en train de fermer boutique. Il revisite.
Il dit au revoir, quoi.
Il dit au revoir à ses personnages. Il ne faut pas non plus oublier le côté opportuniste. C'est quand même un gars qui a eu des blockbusters dans les décennies 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Et encore une fois, Présumé innocent, c'est une de ses plus grandes prestations.
Toi, tu la mettrais vraiment dans le haut du panier.
Dans le très haut du panier, bien sûr. Bien sûr. Voyez le film. Vous allez voir, en fait, la subtilité.
Regardez Présumé innocent de Pacula avec Harrison Ford. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner pour peut-être redécouvrir Harrison Ford. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as un grand film méconnu d'Harrison Ford que tu aimerais conseiller?
S'il y a un film qu'il faudrait voir, ça doit être Mosquito Coast. En plus, avec River Phoenix.
De Peter Weir,
qui fait
tourner Gérard Depardieu en 90 dans Green Card, d'ailleurs. La boucle est bouclée. Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème sur Harrison Ford et Présumé innocent. Donc, encore une fois, on vous conseille de voir ce film si vous voulez redécouvrir Harrison Ford, voilà. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre petit tour du monde, encore une fois, pour aller évoquer les quelques films dont on n'a pas pu parler dans l'émission. C'est parti. Avant d'embarquer dans notre tour du monde, j'en profite pour vous annoncer qu'Année Lumière grandit et que l'émission sera diffusée tout l'été sur Tsugi Radio, la web radio du magazine Tsugi. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir les premiers épisodes de l'émission tous les vendredis de juillet et d'août à 17h. Et ça continuera à la rentrée, puisque Tsugi Radio diffusera tous les mois les nouvelles émissions d'Année Lumière. Et ça, c'est très très cool.
Félicitations.
Et pour faire un petit peu de teasing, Année Lumière n'a pas fini de changer de dimension et de se faire de nouveaux potes, ce qui pourrait même arriver prochainement sur d'autres supports. Mais chut, une annonce sera faite très bientôt. Donc n'hésitez pas à suivre le Twitter de l'émission et à écouter le prochain épisode, je n'en dirai pas plus. Alors pour plonger dans notre tour du monde de l'année 90, et bon, donc évoquer d'autres films qu'on aimerait vous recommander. 90, c'est aussi l'année du film Ghost, c'est l'année du Parrain 3, c'est l'année de Jour de tonnerre de Tony Scott, du film Une balle dans la tête de John Woo, de la découverte d'une Julia Roberts d'à peine 23 ans dans Pretty Woman, du dernier Fellini, La Voce della Luna, ou encore du Sailor et Lula de David Lynch, Palme d'Or cette année-là. Et une année assez folle, assez énorme, mais c'est ce qu'on remarque un peu à chaque épisode d'Année Lumière. Toi, tu voulais, dans ce tour du monde, profiter pour évoquer un film dont on n'a pas parlé dans cette émission-là, et nous parler d'un film en particulier. Quel est-il, ce film, Thomas?
Alors, c'est un film que moi, je connais sous le nom de Dreams, mais j'ai vu qu'il avait été baptisé aussi Rêve, je ne savais pas. Donc, Dreams, d'Akira Kurosawa. J'ai un souvenir très précis de la première fois que j'avais vu les images de Dream. C'était à la télévision, c'était une bande-annonce. À l'époque, on pouvait encore voir des bandes-annonces de films à la télévision. J'avais été subjugué par ce que je voyais, même si je ne comprenais absolument rien. À 12 ans, je ne connaissais pas Akira Kurosawa. Je sais, c'est mal. Et c'est un film extrêmement maladroit. Bizarre, c'est un peu pompeux de dire Kurosawa, t'as fait un film maladroit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon petit Kuro? Non, mais à cette époque-là, c'est un auteur qui est quand même vieillissant, qui a de plus en plus de mal à monter ses films, à trouver des financements. Donc c'est vraiment une œuvre de vieillesse, et c'est une œuvre pleine de jeunesse aussi, c'est très étrange. Et en fait, c'est une sorte de compilation en fait, de 8 vignettes, qui sont en fait 8 rêves. Alors Kurosawa disait que c'était des rêves récurrents que lui faisait, qu'il a voulu mettre à l'écran. Et donc comme je dis, il a eu du mal à se faire, mais grâce à l'aide de Spielberg et Lucas quand même, Lucas qui devait bien ça à Kurosawa pour Star Wars, hein.
Le petit renvoi d'ascenseur sympathique.
Voilà, exactement. Qu'il a pu se faire ce film, et en plus, petite cerise sur le gâteau, et c'est moi ce qui m'avait attiré à l'époque, je pense que c'est le premier Kurosawa que j'ai vu d'ailleurs, ce qui m'avait attiré à l'époque, c'était de voir Martin Scorsese acteur. Il joue Van Gogh dans une des vignettes, qui n'est pas la plus réussie, mais qui est la plus belle, je dirais, visuellement. Parce que vraiment, on est projeté dans l'univers de Van Gogh, mais à la manière de Kurosawa, donc c'est un mix un peu étrange sur papier, mais qui fonctionne. Et voilà, donc c'est 8 vignettes, c'est une sorte de voyage, donc c'est 8 vignettes, donc c'est forcément inégal, il y en a qui sont plus réussis que d'autres, etc., mais il y a quand même un fil conducteur un peu divagant qui est assez génial, et visuellement ça coupe le souffle, même si c'est parfois ennuyeux.
Donc Dreams, rêve d'Akira Kurosawa, 1990 également. Merci pour la reco, Thomas. Alors moi, pour ce tour du monde, j'aimerais vous conseiller un autre film. On va rester du côté de l'Asie pour Nos années sauvages, film de Wong Kar-wai, également sorti en 90, film hongkongais donc, qui est donc le deuxième film de Wong Kar-wai après As Tears Go By en 88. Pourquoi je vous en parle? C'est pas souvent qu'on voit un film qui fixe et qui installe le cinéma de son auteur, et c'est le cas pour Nos années sauvages, puisque Nos années sauvages est le film, on va dire... Alors, son film précédent, As Tears Go By, était vraiment un film policier d'action qui ressemblait pas trop à Wong Kar-wai. Là, autant nos années sauvages ressemblent vraiment et créent vraiment, on retrouve vraiment l'identité cinématographique de Wong Kar-wai, c'est-à-dire tout ce côté du cinéma, de la mémoire, des souvenirs. On est dans les années 60 à Hong Kong, et c'est plein de destins, plein de personnages et de trajectoires qui s'entremêlent, des gens qui se loupent, des gens qui s'entrechoquent. Donc ce cinéma de la mémoire, de l'attente, du souvenir, de la séparation, bref, toutes ces thématiques propres à... Et que Wong Kar-wai chérit. Et c'est aussi, au passage, sa première collaboration avec le directeur de la photographie, Christopher Doyle, avec qui il fera donc, notamment 6 films, comme Happy Together, In the Mood for Love, 2046. Donc si vous aimez Wong Kar-wai, et si vous voulez voir où est né le cinéma de Wong Kar-wai, Nos années sauvages est plutôt une bonne entrée. D'autant que le film est une sorte de préquel à In the Mood for Love. Nos années sauvages était censé être le premier film d'une espèce de trilogie qui a finalement été avortée puisque le film n'a pas du tout marché. Et 10 ans plus tard, Wong Kar-wai, quand il fait In the Mood for Love, il reprend les histoires et les thèmes des deux films qui ont été annulés. Et il fait donc In the Mood for Love et plus tard 2046. On trouve d'ailleurs les mêmes personnages et les mêmes acteurs comme Maggie Cheung et Tony Leung. Nos années sauvages de Wong Kar-wai, ce sera ma petite reco pour cette année 90, donc n'hésitez pas. C'est toujours beau de voir une naissance. Voilà qui conclut notre épisode sur l'année 1990 avec notre invité Thomas Destouches, année qu'on a vue qui était assez formidable. On a parlé de plein de choses. On a parlé de, bien sûr, Danse avec les loups, de et avec Kevin Costner. On a parlé de Cyrano de Bergerac, de Gérard Depardieu et de sa carrière avortée à Hollywood. On a parlé, bien sûr, d'Harrison Ford et de Présumé innocent de Alan G. Pakula. Et on a évoqué donc Akira Kurosawa, Wong Kar-wai et plein d'autres petits films comme ça à droite à gauche. J'espère que ça a été aussi plaisant pour vous auditeurs que pour nous. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager, votre avis, à dire comment vous aimez cette émission sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous très très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière. Salut salut.